Merci Madame la Présidente, merci chère Carole. J'avais mis ce titre un peu rapidement, comme toujours quand on fait, mais je pense que figure de rhétorique déjà conviendrait mieux. Et surtout, je vais un peu peut-être en profiter pour reprendre certains éléments. Il y aura peut-être des éléments un peu de conclusion aussi de colloque en même temps, notamment sur la citation de Strauss qui était dans l'argumentaire et qui est régulièrement revenue depuis dès la première communication, celle de Thomas Hockmann. Citation que a fortement contesté Robert Danton. Et je vais commencer par deux anecdotes. La première concerne Edmond de Goncourt, qui réagissait à une coupure de la censure pour une adaptation d'un de ses romans. On lui avait fait supprimer l'expression « Paris au fichu cochon de ville » et dans un rapport destiné aux parlementaires, il écrivait ceci « La censure me défend de faire parler à Mademoiselle de Varandeuil sa langue et d'être, jusqu'à la fin de son rôle, la créature originale que je me suis efforcé de créer. » Alors là, nous sommes face à l'idée reçue très répandue selon laquelle la censure serait castratrice. Ça appartient à une forme de légende noire de la censure. Effectivement, la censure contrarierait l'originalité, aplatirait le piquant, la vivacité. Mais à rebours, on peut lui opposer aussi l'idée contraire, celle d'une censure qui serait créatrice, féconde, et c'est la deuxième anecdote, concerne cette fois-ci Fréron. C'est une anecdote qui est racontée par Sainte-Beuve au sujet de l'Écossaise de Voltaire, puisque, effectivement, Voltaire ne ménage pas son ennemi dans le rôle le plus vil, et le polémiste, Fréron, avait préparé une recension vengeresse dans l'année littéraire. Malesherbes lui a tout rayé et l'a obligé du coup à recomposer complètement l'article. Et Sainte-Beuve qui compare la première version, celle qui a été coupée par la censure, de la seconde, écrit ceci: grâce aux difficultés que lui opposa la censure, Fréron, obligé de se contraindre et de passer de l'injure à l'allusion, a véritablement acquis de la finesse et de l'esprit plus qu'il ne s'en accorde ordinairement. C'est un de ses meilleurs articles, le meilleur peut-être. Paradoxalement, la censure contraint au détour, à la figure, à l'allusion. D'une certaine manière, la censure trouble la transparence du discours, conformément à certaines définitions de la littérarité. Ce passage de l'expression directe au détour, eh bien, s'inscrit bien sûr dans une démarche rhétorique ancienne. Auerbach, dans Figura, explore les divers sens du terme de censure, depuis Terence jusqu'aux institutions oratoires de Quintilien. Et au sujet de ces institutions oratoires, il énumère les diverses figures en une liste qui s'achève par la citation suivante: « Mais surtout, ceux qu'on considérait alors comme la figure par excellence, celle qui méritait le plus ce nom, l'allusion cachée sous ses différentes formes. On avait élaboré une technique raffinée pour exprimer ou insinuer une chose sans la dire. Une chose, bien sûr, qui, pour des raisons politiques ou tactiques, ou simplement pour obtenir un effet plus grand, devait rester cachée, ou tout au moins tacite. L'un des usages les plus anciens des figures consiste en une tactique pour contourner une censure, censure là au sens large. Il est très important, bien sûr, quand on parle de censure, de définir le terme. Je l'emploie dans un sens très large, non seulement juridique, mais aussi la censure morale, sociale aussi, donc celle de l'opinion publique ou de l'entourage, du qu'en dira-t-on, des bienséances, censure morale et aussi littéraire, esthétique, ce qu'on ne doit pas dire en raison, en particulier, des bienséances. Le présent propos veut donc revenir sur un leitmotiv du colloque, qui est apparu dans l'argumentaire mais aussi dans plusieurs communications, avec cette citation de Strauss: un écrivain attentif d'intelligence normale est plus intelligent que le censeur le plus intelligent en tant que tel. Donc c'est cette phrase que reprend Darnton dans son dernier essai de la censure, en montrant que la recherche scientifique qu'il a accomplie prouve même le contraire. et ceux qui travaillent sur les archives, moi ça a été mon expérience, effectivement, nous voyons que cette citation de Strauss n'est pas adaptée à ce que nous révèlent les archives de la censure. Alors, la question centrale pourrait être la suivante, par rapport à cette question de la figuralité, dans quelle mesure le lecteur, y compris ce lecteur très particulier qui est le censeur, dans quelle mesure il entend la figure de style comme un moyen de surmonter la censure. Comment interprétons-nous certaines figures comme des manières occultes de dire autre chose que ce qui reste de l'ordre de l'explicite ? Considérons-nous une figure de style comme un simple ornement ou lui prêtons-nous au contraire une intention occulte ? Et si oui, est-ce que cette intention est justifiée ? Alors, on va l'aborder selon deux points de vue. D'abord, le point de vue de la censure. Du point de vue de la censure, si l'on s'en tient à Strauss, le censeur ne pourrait pas affirmer que l'énoncé réel d'un texte est occulte. Le censeur ne pourrait s'en tenir qu'à l'interprétation littérale. On s'interrogera donc sur cette affirmation de Strauss. La censure est-elle, par sa nature juridique, imperméable à la figuration ? Ça ira quand même assez vite, puisque notre colloque a suffisamment répondu à cette question en montrant que les censeurs, effectivement, n'en restent pas à l'interprétation littérale ni à l'interprétation auctoriale. Du point de vue du style, maintenant, on attribue généralement deux grandes fonctions aux figures de rhétorique. Une fonction ornementale, le style orne, embellit, confère de la grâce, du sublime, de la légèreté ou de la gravité, etc. Mais aussi, les figures ont une fonction rhétorique. La figure accroît la compréhension et la persuasion. Ces fonctions rhétoriques peuvent se décliner sous plusieurs aspects, et parmi ces aspects, celui de surmonter l'autocensure est-il convenablement considéré par les spécialistes de rhétorique ? Quelle est sa juste place dans la rhétorique ? Si, pour les auteurs qui craignent la censure, le détour par la figure est un outil essentiel de l'expression, qui parvient à accommoder l'interdiction avec l'expression, l'intérêt pour cette fonction rhétorique semble parfois anecdotique aux yeux des rhéteurs. Alors je vais d'abord traiter de ce degré de conscience de la figuralité chez les censeurs. Et en partant d'un exemple qui ne vient pas du corpus que j'ai l'habitude de travailler, puisque ça vient des archives nationales de la censure dramatique au XIXe siècle. Et notamment la censure d'un vaudeville intitulé « La négresse et le pacha », écrit par Théophile Gautier et Charles de la Rouna. En décembre 1851, le manuscrit est soumis au censeur qui barre trois expressions. Ce sont les seules corrections qui sont demandées. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième correction qui est demandée. Pour situer le passage, la pièce met en scène une jeune fille prénommée Palmyre, qui est une modiste parisienne qui a été enlevée par le sultan de Bagdad pour être esclave dans son sérail. Mais elle est rejointe par son sauveur, Moutonnet, qui était son amant à Paris, qui se fait passer pour un eunuque pour pouvoir pénétrer le sérail. Et donc, c'est la scène de rencontre entre Palmyre et Moutonnet. Voici la photographie. Donc, ce que vous voyez bien, oui, la photographie. J'ai pris ça avec mon téléphone sur les archives. Voici la photographie donc, du texte. La mention biffée, c'est celle que refuse la censure. Donc, la pièce, quand elle a été jouée, a supprimé cette expression. Palmyre. Mais tu savais donc m'y trouver, Moutonnet. Mon cœur me le disait. Et là commence la partie interdite. Je sentais en moi quelque chose se tourner incessamment vers toi, comme l'aiguille aimantée vers le poil. Et on revient à la partie autorisée. Ne me demande pas comment j'ai fait pour me tirer des mains des mécréants, je ne te le dirai pas. On le voit, nous sommes ici face à une figure de style, notamment vous avez une comparaison, et on se demande pourquoi c'est censuré, évidemment pas pour le sens exotérique, dirait Léo Strauss, mais vraiment pour la possible interprétation obscène d'une ardeur corporelle, on pourrait dire, surdimensionnée. Et donc à ce moment-là, on voit que le censeur, du moins, a interprété la figure de cette manière. Donc, quand Strauss dit le censeur le plus intelligent ne voit pas les allusions que met l'auteur, on voit que c'est effectivement pas toujours le cas. Les censeurs ont même une endurance pour analyser les discours à double entente. La censure royale au XVIIIe siècle a même intégré cet aspect à ses critères de jugement. J'en veux pour preuve le manuel de droit criminel de Muyard de Vouglans que cite Anna dans son article sur la censure des libelles diffamatoires. Voici ce qui est écrit dans ce manuel. « Les injures se commettent tantôt expressément, tantôt tacitement et obliquement par des réticences, ironies, allégories, paroles équivoques et à double sens. » Donc, ça fait partie de la jurisprudence pour analyser des injures, on n'en reste pas au sens littéral. Malesherbes, l'ancien directeur de la librairie, confie dans ses mémoires que la jurisprudence française intégrait cette possibilité de condamner une injure voilée, à la différence du droit anglais, qui effectivement en restait au sens littéral. Et c'est une seconde citation que j'emprunte à l'article d'Anna. « Mais si cet auteur, sans nommer personne, fait un portrait de celui qu'il veut insulter, auquel on ne puisse pas se méprendre, le juge anglais ne pourrait pas le condamner, parce qu'aucune loi n'a pu définir les cas dans lesquels le trait d'un livre doit être réputé une satire, et le juge français le condamnerait sans hésiter. » L'auteur aurait beau dire qu'on lui prête une intention qu'il n'a pas eue, c'est la fameuse dénégation d'auteur face aux interprétations ésotériques. Quand cette intention paraîtrait évidente au juge, cette défense de l'accusé serait regardée comme un subterfuge. Et là, j'ai le plaisir aussi de te citer directement Anna sur cette question des libelles diffamatoires et de leur influence sur l'art d'écrire. La possibilité effective pour un censeur de condamner un sens figuré semble avoir eu une influence indéniable sur les pratiques d'écriture au XVIIIe siècle, dans la mesure où les auteurs auraient renoncé à des portraits trop individualisés, car susceptibles d'être appliqués à des individus historiques. On censure autant que l'allusion, de certaine manière, est claire. Donc le travail d'écriture consiste à effacer les marques qui permettraient l'identification, mais si on les efface trop, on se censure soi-même, et surtout, il n'y a plus d'identification possible, donc ça perd sa valeur injurieuse. Je donne maintenant, après avoir parlé donc de la censure dramatique, la censure royale, et maintenant la censure de l'index au XIXe siècle, pour aller un peu plus loin, parce que Strauss n'en reste pas aux figures de style. J'aborderai cela à la fin de mon exposé, puisque chez Strauss, ça prend aussi le sens beaucoup plus large de propos masqués. Et le votum de l'index, c'est-à-dire le rapport d'analyse des censeurs sur le livre mystique de Balzac, le censeur envisage l'interprétation suivante. Si cela n'est pas une allégorie dont les paroles « Dieu, matière, esprit, foi, sphère, etc. » ont une signification occulte, analogue à l'objet que s'est proposé l'auteur et qui est peut-être une satire des ascètes ou de quelques individus adeptes de la théologie mystique, il faudra affirmer qu'une telle doctrine n'est pas conciliable avec la catholique. Donc le censeur envisage deux sens possibles, un sens allégorique, occulte, ésotérique dirait Strauss, et ce sens consisterait en une possible satire des ascètes. Mais il y a aussi un sens littéral, et ce sens littéral lui aussi est hétérodoxe, n'est pas conforme à la doctrine. Il ne tranche pas, il envisage tous les possibles afin d'éviter toute erreur d'interprétation. Il reste prudent sur le sens authentique, mais il signale quand même ces deux sens possibles. On a la même chose pour le censeur de Las Verus de Quinet, qui ne cesse de répéter « il semble » pour dire qu'il y a des allégories, mais il confie aux cardinaux, qui sont les juges suprêmes, qu'il ne peut pas apporter de réponse sûre et certaine sur la question d'une possible allégorie. Donc, ce type de raisonnement semble invalider en partie Strauss, puisque effectivement l'allégorie est envisagée, mais ça valide en revanche le jugement de Strauss, puisqu'on n'est pas capable d'apporter une solution certaine. Il n'y a pas de certitude à partir du moment où il y a allégorie ou sens second. Ces trois exemples, tirés de trois institutions distinctes, montrent des censeurs attentifs au sens caché, allusif d'un texte, qu'il s'agisse d'une comparaison conjoncturelle dans le texte, ou bien d'une allégorie suivie, ou encore d'un texte à clé, dans le cas de la censure royale pour les libelles diffamatoires. En ce sens, l'affirmation selon laquelle un écrivain attentif d'intelligence normale est plus intelligent que le censeur le plus intelligent mérite des nuances. Dans ce jeu de cache-cache sur le sens réel d'un texte, rien n'assure que l'auteur gagne toujours la partie, puisque nous trouvons des censeurs qui affirment d'abord la possibilité d'un sens ésotérique, qu'il faut prendre en considération, et aussi, et surtout, la possibilité de condamner une œuvre sur ce sens figuré. Pour cela, il est nécessaire de nous tourner vers ce que Strauss appelle l'art d'écrire, et expression qui désigne couramment la rhétorique, l'art de parler. Donc, j'en viens maintenant au point de vue du style. Parmi ces fonctions que l'on assigne à une figure rhétorique, outre la fonction ornementale, il y a des fonctions rhétoriques, une fonction par exemple argumentative, il s'agirait de fortifier les preuves, et une fonction pédagogique, éclaircir par exemple les pensées. Là, je reprends en fait une définition de la métaphore qu'on trouve dans le traité des 1000 le franc, le traité de littérature de 1844. Mais on pourrait y ajouter, parmi les fonctions rhétoriques, une troisième fonction qui serait celle de pouvoir dire sans dire, celle du contournement de la censure, celle de l'expression oblique. Alors, bien sûr, la rhétorique prend en considération cette fonction oblique par un certain nombre de figures qui sont bien connues. On a vu que c'était mentionné dans le manuel tout à l'heure, avec notamment l'allégorie d'ironie. Il y a bien sûr la périphrase. Alors j'ai mis en gras quelques éléments qui vont dans ce sens-là. La périphrase chez Bernard Lamy. La périphrase est particulièrement d'usage lorsqu'on est contraint de parler de choses qui pourraient salir l'imagination si on les exprimait naturellement. Donc, une manière, la figure permet de contourner une difficulté à dire. Également, la prétérition, aussi appelée prétermission ou encore feinte. La prétermission est une figure qui fait semblant de passer sous silence les choses qu'elle veut inculquer plus fortement. Donc là, ça va même plus loin, ça veut dire qu'on arrive non seulement à dire sans dire, mais même on dit mieux. Un autre nom qu'on a pu donner à la prétérition, c'est la feinte. Cette figure consiste à dire beaucoup de choses qu'on feint de ne vouloir pas dire. On se sert de cette figure lorsqu'on a des auditeurs scrupuleux, qu'on parle devant des personnes modestes, etc. Donc une censure de l'ordre des bienséances, de la morale, de l'opinion publique. Autre figure encore de style, c'est la réticence. Elle était mentionnée effectivement dans la liste tout à l'heure. La réticence est une figure par laquelle on s'interrompt tout à coup pour passer brusquement à une nouvelle idée, de manière toutefois à laisser suffisamment comprendre ce qu'on affecte de supprimer. Cette figure est très adroite en ce qu'elle fait entendre non seulement ce qu'on ne veut pas dire, mais souvent beaucoup plus qu'on ne dirait. Donc là aussi, la figure non seulement permet de dire, mais même de dire plus. Et il donne un exemple tiré de Racine. Je continue donc ce que dit Émile Lefranc de la réticence. Quelquefois, la réticence est amenée par un motif de bienveillance, d'estime ou de respect. Alors, il donne l'exemple de Fléchier. Fléchier qui essaie de raconter les derniers instants de Saint Thomas de Canterbury, mais le problème, c'est qu'il est mort martyr au moment où il s'apprêtait à célébrer une messe en ornement, et donc ça serait raconté devant un auditoire dans le cadre d'une rhétorique sacrée, à la fois un spectacle sanglant et un spectacle sacrilège. Donc il faut arriver à trouver un détour pour n'avoir pas à dire la chose. Bossuet, alors je vous l'ai mise, mais je vous donne un autre exemple qui est tiré de Bossuet, que je prends là dans le manuel d'éloquence sacrée du cardinal Maury. Dans les précautions oratoires, il distingue 6 types de précautions oratoires, et là c'est dans le 4e type, les précautions de convenance. Il faut jeter un voile transparent sur les considérations ou sur les faits que vous voulez énoncer sans les articuler plus clairement et surtout sans les approfondir. Bossuet ne veut pas dire en termes formels dans son oraison funèbre de la reine d'Angleterre que Charles Ier est mort sur un échafaud, qui serait effectivement infamant. Sa délicatesse répugne à proférer ce mot infâme en présence des enfants de ce malheureux prince et de toute la cour. Mais pour rappeler un si horrible événement par une heureuse citation des livres saints, il se contente de mettre dans la bouche de la reine ces paroles du prophète Jérémie, qui seul, dit-il, est capable d'égaler les lamentations aux calamités. Donc là, il cite, ce qui veut dire que dans la narration de la vie d'Henriette de France, reine d'Angleterre, il interrompt le récit de la narration pour faire une apostrophe à Dieu en reprenant des paroles saintes qui, elles, font allusion à une profanation de la royauté. Et donc c'est de cette manière qu'il arrive à parler de l'échafaud. « Voyez, Seigneur, mon affliction, mon ennemi s'est fortifié et mes enfants sont perdus. Le cruel a porté sa main sacrilège sur ce qui m'était le plus cher. La royauté a été profanée et les princes sont foulés aux pieds. Laissez-moi, je pleurerai amèrement, n'entreprenez pas de me consoler. » Donc voilà comment Bossuet arrive à évoquer l'échafaud sans avoir à en parler. Donc vous le voyez, dans ce cas-là, de réticence, ce qui motive le détour, ce sont les bienséances. Les bienséances, alors les bienséances sont de divers ordres, je ne vais pas non plus les développer, hein, c'est une bienséance de lieu, de temps, de circonstances, par rapport au sujet qui est abordé, par rapport à l'auditeur, par rapport au locuteur. Je prends simplement la bienséance de personne dans un autre manuel d'éloquence sacrée. C'est un manuel d'éloquence sacrée, c'est-à-dire un manuel qui est destiné au prédicateur, à l'éloquence de chair. Qu'on ne se permette jamais de qualifier ses auditeurs d'une manière qui pourrait les humilier. Point d'expression choquante, point de terme offensant. Alors hier, en recopiant ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte de généalogie entre le politiquement correct, on refuse les termes offensants, et la rhétorique des prédicateurs. Point de comparaison humiliante. Si le terme, la phrase ou l'idée dont on redoute l'effet est néanmoins nécessaire, il faut alors appeler à son aide ces tournures adroites connues sous le nom de précautions oratoires qui adoucissent l'expression d'une idée sans détruire la force de l'idée elle-même. Il y a toujours donc ce paradoxe de pouvoir dire sans dire, et donc les précautions oratoires découlent directement de la nécessité morale de la bienséance. Alors, les figures que j'ai énoncées, ce sont des figures, j'allais dire, usuelles, habituelles, rattachées précisément à ce contournement. Donc, on peut se demander si, au fond, les autres figures ne sont pas potentiellement porteuses, elles aussi, de cette même valeur de contournement de la censure. Et précisément dans ce manuel de Louis Bellefroy, il est question de l'allégorie comme pouvant servir de contournement. Je vous lis ce qu'il dit. « La métaphore mérite particulièrement attention. Il n'y a rien de plus gracieux et de plus énergique que cette figure. L'allégorie, qui n'est qu'une métaphore développée, est extrêmement utile pour masquer ou pour colorer d'une manière agréable une instruction qui pourrait déplaire. Notre Seigneur ne dénie pas d'y avoir recours. » Alors, effectivement, là, c'est une allusion aux paraboles évangéliques, mais les paraboles évangéliques ne sont pas liées, en fait, à une volonté de contourner une censure, mais plutôt pour des raisons pédagogiques. Et alors, en fait, et c'est même ce qui avait déterminé ma communication, le titre, j'avais choisi une année de donner à étudier 93 à mes étudiants, notamment un texte. Alors je situe ce texte parce qu'il repose alors, sur une sorte de mélange de comparaisons, de métaphores filées ou de comparaisons filées ou d'allégories. On l'appellera la figure. Il s'agit en fait d'un dialogue entre Gauvin. Pour ceux qui n'ont pas lu ce roman de Victor Hugo, ça se passe pendant l'année 1793, pendant les guerres révolutionnaires dans l'Ouest. Et Gauvin est général d'armée, il est militaire et commandant des armées, mais il se montre plutôt fidèle à des principes comme les droits de l'homme, la bienveillance, la liberté, etc. Et il ne massacre pas les populations civiles. Mais il est sous la surveillance d'une sorte de commissaire politique qui est Simourdin, qui lui représente la révolution dans son versant terroriste, et l'homme de la terreur, qui lui reproche précisément de faire preuve de trop de complaisance dans la manière dont il mène les combats. Donc je vous lis ce long extrait et ensuite je vous donnerai quelques éléments à son sujet. « Prends garde, s'écria Simourdin, les devoirs terribles existent, n'accuse pas qui n'est point accusable. Depuis quand la maladie est-elle la faute du médecin ? Oui, ce qui caractérise cette année énorme, c'est d'être sans pitié. Pourquoi ? Parce qu'elle est la grande année révolutionnaire. Cette année où nous sommes incarne la révolution. La révolution a un ennemi, le vieux monde, et elle est sans pitié pour lui, de même que le chirurgien a un ennemi, la gangrène, et est sans pitié pour elle. La révolution extirpe la royauté dans le roi, l'aristocratie dans le noble, le despotisme dans le soldat, la superstition dans le prêtre, la barbarie dans le juge, en un mot, tout ce qui est la tyrannie dans tout ce qui est le tyran. L'opération est effrayante, la révolution l'a fait d'une main sûre. Quant à la quantité de chair saine qu'elle sacrifie, demande à Borave ce qu'il en pense. Quelle tumeur à couper n'entraîne une perte de sang? Quel incendie à éteindre n'exige la part du feu? Ces nécessités redoutables sont la condition même du succès. Un chirurgien ressemble à un boucher. Un guérisseur peut faire l'effet d'un bourreau. La révolution se dévoue à son œuvre fatale. Elle mutile, mais elle sauve. Quoi, vous lui demandez grâce pour le virus? Vous voulez qu'elle soit clémente pour ce qui est vénéneux? Elle n'écoute pas, elle tient le passé, elle l'achèvera, elle fait à la civilisation une incision profonde, d'où sortira la santé du genre humain. Vous souffrez, sans doute. Combien de temps cela durera-t-il? Le temps de l'opération. Ensuite, vous vivrez. La révolution ampute le monde. De là, cette hémorragie 93. Donc on est dans une forme d'image filée, de figure, avec cinq éléments qu'on peut distinguer. D'une part, le médecin ou le chirurgien, si on reprend les termes du texte. Il est aussi question de maladie, de gangrène, de virus ou de venin. Ce que fait le médecin, c'est une opération, incision, mutilation, amputation. C'est les termes que je reprends à chaque fois du texte. Il est question aussi, ça va ensemble avec l'opération, mais de sacrifice de chair saine, de perte de sang et d'hémorragie, et enfin de santé. Si maintenant nous analysons les éléments qui sont donnés dans cette allégorie de manière explicite, c'est-à-dire soit dans les comparaisons, soit dans les métaphores in presentia. Eh bien, le médecin, le chirurgien correspond à la révolution. Maladie, la gangrène, c'est le virus ou le venin. La gangrène, le virus ou le venin correspondent, si je reprends l'expression de Victor Hugo, au vieux monde, au passé, à la royauté, à l'aristocratie, au despotisme, à la superstition, à la barbarie, à la tyrannie. Silence sur, il n'y a pas explicitement de comparaison ou de métaphore in presentia pour deux éléments, l'opération et le sacrifice de chair saine. Et la santé, c'est la santé du genre humain, le salut politique et social. Donc on voit qu'il y a dans ce qui est figuré des éléments qui sont passés sous silence. Et si nous regardons quels sont ces éléments passés sous silence, eh bien il s'agit de la répression, de la terreur, des massacres de masse, notamment des populations civiles et des massacres d'innocents, puisque ce que fait valoir Gauvin pour résister à Simourdin, c'est qu'il refuse cet aspect-là de la révolution. Ce qui est intéressant, c'est ce silence sur les éléments tus, ce qui est de l'ordre de la métaphore in absentia, puisque ça concerne ce qu'il ne serait pas supportable de justifier explicitement. Le détour par l'image permet un euphémisme, un silence, et donc rend plus convenable, plus acceptable la défense de 93. C'est au lecteur d'interpréter ces figures in absentia. Alors ici, il n'y a pas de doute, mais parfois, l'interprétation du figuré dans les métaphores in absentia soulève de vraies questions et s'oppose aux dénégations des auteurs. Alors, pour donner justement un exemple de ce qui peut être très complexe en matière d'interprétation, là, l'interprétation était simple. Ce qui est plus un autre exemple tiré de Victor Hugo, plus complexe, de la Légion des siècles. J'ai pris deux quatrains de Boz endormi, mais vous le savez sans doute, Lacan a expliqué que ce poème, qui en apparence est très chaste, biblique, sur la rencontre entre Boz et Ruth, en réalité, c'est un poème entièrement centré sur le phallus, l'éjaculation, la semence, etc. Alors, je prends simplement deux quatrains. Pour voir le sens exotérique, bien sûr, mais potentiellement comment il y a eu certaines interprétations ésotériques, érotiques. On a parlé d'érotisme refoulé, voire de pornographie refoulée sur ce poème de Victor Hugo. « Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite, s'était couchée au pied de Boz, le sein nu. » Espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Boz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Alors, ce qui incite à lire de manière érotique, c'est un ensemble de procédés, d'abord concernant les signifiants, Ruth et Boz, Boz inversé donnant Zob, et la rime en bit. Et puis également le sémantisme de touffe qui peut prêter à interprétation équivoque. Mais également, vous avez ces expressions espérant on ne sait quel rayon inconnu, donc une sorte de silence. Est-ce qu'on peut l'analyser justement de nos linguistes comme une sorte de prétérition ou de... On ne sait quel rayon inconnu. C'est une périphrase. C'est une périphrase. Et de même, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Donc ça invite bien sûr à une lecture énigmatique. Il y a aussi des bizarreries, comme dirait Léo Strauss. Quand viendrait du réveil la lumière subite, le lever du soleil ne passe pas par une lumière subite, mais plutôt progressive. Donc, on va s'interroger, c'est bizarre que cette lumière subite, qu'est-ce qu'il veut dire? Et on peut évidemment donner un sens différent par rapport au contexte. De même, les souffles de la nuit, qui, comme ils suivent le frais parfum qui sort des touffes, peut aussi prendre une signification de spasme érotique. Alors, un censeur qui se risquerait à faire de Boz endormi un poème pornographique, évidemment, serait parfaitement ridicule. Il serait ridiculisé, il passerait pour un obsédé un peu vicelard, alors que quand c'est Lacan ou la critique littéraire psychanalytique, la chose passe très aisément. Je reviendrai sur ce paradoxe dans ma conclusion. Mais pour dire, voilà, ce poème n'a jamais été poursuivi et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que on parlait hier du problème qui était soulevé par les assises, le passage des assises à la correctionnelle pour les délits d'outrage à la morale publique, parce que précisément on considérait comme exagéré certaines interprétations. Les jurys populaires considéraient comme exagéré ce que les juges croyaient voir dans les textes. Donc, ce problème herméneutique, il apparaît très clairement dans l'exemple suivant que je vais vous donner, cette fois-ci, qui est tiré, si on veut, des Fleurs du Mal, mais là, c'est l'édition, une reproduction de l'édition des Épaves, c'est-à-dire les poèmes qui ont été interdits en 1857, des Fleurs du Mal, qui ont été réédités par Poulet-Malassis c'était en Belgique, mais il prétendait à Amsterdam. Et Poulet-Malassis ajoute une note. Alors, si vous la voyez mal, je l'ai mise à côté. Mais sinon, je lis les deux derniers quatrains de « À celle qui est trop gaie », puisque c'est le poème de Baudelaire « À celle qui est trop gaie ».« Pour châtiller ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. » Voici la note de Poulet-Malassis. Les juges ont cru découvrir un sens à la fois sanguinaire et obscène dans les deux dernières stances. La gravité du recueil excluait de telles plaisanteries, mais venin signifiant spleen ou mélancolie était une idée trop simple pour des criminalistes. Donc deux interprétations s'affrontent. Celle des censeurs qui explique que nous sommes face à une métaphore, une image assez violente de l'acte charnel puisqu'il est accompagné de volonté de blesser, de question du venin, alors que celui qui défend Baudelaire pour les Malassis explique non, c'est quelque chose de purement sentimental, on est là pour infuser une certaine mélancolie. Alors, qui est de mauvaise foi entre les deux? Il est en fait très très difficile de trancher. Un certain nombre de baudelairiens ont tendance à plutôt privilégier ceux qui sont opposés à la censure, donc Poulet-Malassis, y compris Claude Pichois, qui considérait que le style ressemblant, par certaines formules un peu paradoxales, la gravité du recueil excluée de pareille plaisanterie, ça ressemble à du Baudelaire, et donc en réalité Baudelaire aurait soufflé, mais il n'a aucune preuve pour le dire, simplement celle du style, aurait soufflé cette interprétation à Poulet-Malassis. Bref, on est face à un vrai problème d'interprétation, comment comprendre cette métaphore finale de « à celle qui est trop gaie ». Et là, nous allons donc revenir à Nous allons revenir à Léo Strauss pour terminer cet exposé. Et la citation que j'avais donnée au début, c'est une citation qui a été interprétée isolément par Danton comme « le censeur est un imbécile ». Mais en réalité, si on prend ce qui suit, on peut lui donner un autre sens. Et donc je vous lis le jugement un peu plus complet de Strauss. Car la charge de la preuve incombe au censeur. C'est lui ou l'accusateur public qui doit faire la preuve que l'auteur soutient ou a exprimé des opinions hétérodoxes. Pour ce faire, il lui faut montrer que certains défauts littéraires de l'ouvrage ne sont pas dus au hasard, mais que l'auteur a utilisé délibérément telle expression équivoque ou qu'il a intentionnellement mal construit telle phrase. Alors, quels sont ces défauts littéraires dont il est question ? Alors, c'est un peu plus loin dans La persécution et l'art d'écrire. Nous avons deux listes. Obscurité du plan, contradiction à l'intérieur d'un ouvrage ou entre deux ou plusieurs ouvrages d'un même auteur, omission de chaînons importants de l'argumentation, etc. Et encore plus bas, obscurité du plan, donc c'est la partie soulignée dans la deuxième citation. Obscurité du plan, contradiction, pseudonyme, répétition inexacte d'affirmations antérieures, expression bizarre, et à chaque fois il met un « etc. » qui suggère, mais qui ne nous éclaire pas forcément. Strauss avance donc ce paradoxe implicite. Si le sens ésotérique est perçu ici là par les philosophes en herbe, le censeur ne peut pas le prouver. Et c'est ça son problème, c'est qu'il n'est pas capable de le prouver. La formulation du sens caché n'est jamais certaine. Elle est susceptible d'être niée par l'auteur qui peut toujours se réfugier derrière le sens exotérique. Mais non, je n'ai pas voulu dire ça, comme Baudelaire, Poulet-Malassi, ou la première communication, celle de Thomas Hockmann sur les propos équivoques dans les tribunaux contemporains. C'est par exemple la question du procès du point de détail. Jean-Marie Le Pen dit « Non, je n'ai pas voulu dire quelque chose d'insignifiant, j'ai voulu dire l'ensemble d'un tout. » Donc il y a toujours une dénégation, et donc forcément, s'il veut une preuve scientifique, le juge ne peut pas. Il ne peut pas affirmer de manière scientifique que le sens, le bon sens, le sens réel, c'est celui-ci. Donc, le problème du censeur, selon Strauss, consiste à ne pas pouvoir prouver scientifiquement ce sens ésotérique. Mais, me semble-t-il, cette idée reste tributaire de deux postulats. D'abord, un postulat juridique selon lequel les magistrats auraient pour habitude d'émettre des sentences seulement fondées sur la certitude scientifique, qui me semble un postulat assez idéaliste, discutable, même dans les états de droit. Aussi, pour ce qui a fait l'objet de mes travaux, c'est-à-dire la censure d'Église, les censeurs, le droit canonique de l'index n'a jamais accordé de valeur dogmatique aux décisions de l'index, mais simplement une valeur disciplinaire, c'est-à-dire des énoncés prudentiels qui sont modifiables en fonction du temps, des circonstances, et on accordait d'ailleurs des dérogations de lecture à ceux qui en demandaient. Donc on considère qu'une sentence d'interdiction de livre, donc une sentence de censure, n'a pas de valeur certaine. C'est une valeur approximative dans la pensée ecclésiale. Le deuxième postulat, c'est un postulat, lui, qui est littéraire, et qui serait le postulat suivant: il n'est pas possible d'établir avec certitude l'existence d'un sens figuré ou ésotérique. Alors, là aussi, il me semble que ce postulat est discutable. Il est discutable, pourquoi ? Parce que, d'abord, on suppose qu'il n'existe pas de sens figuré. Imaginer un sens figuré, c'est se faire illusion. C'est un peu un postulat à la positiviste. Et la tradition rhétorique, justement, prouve le contraire. Parler d'art d'écrire renvoie à la rhétorique qui s'est développée depuis l'Antiquité, malgré ses variantes culturelles au cours de l'histoire. Et comme l'écrit Auerbach, l'art des formulations figurées, périphrastique, allusive, insinuante et hermétique, qui permettrait soit d'embellir le sujet, soit de le faire ressortir avec plus d'efficacité ou de perfidie, était parvenu dans l'éloquence tardo-antique à une perfection et à une souplesse qui la rendent à nos yeux peu compréhensible et bizarre, voire souvent inepte, et ses formulations étaient appelées figurées. Alors, les figures, parce que là, il parle de Quintilien, ont connu les manuels de rhétorique. Enfin, la rhétorique s'est développée pendant tout le Moyen Âge, notamment englobée dans la scolastique, à la Renaissance, etc. Donc, dire que on ne peut pas prouver l'existence d'un sens figuré, eh bien, la tradition rhétorique montre le contraire. Et d'autre part, parce que sur la question de l'autorité de l'auteur. En effet, pour Strauss, seule la connaissance de l'intention de l'auteur peut apporter une part de certitude, peut apporter de la certitude, du moins, à ce sens figuré. Or, la remise en cause de ce postulat de l'intention de l'auteur ne date pas des déclarations de Barthes ou de Foucault. Pour toujours mon corpus, par exemple, l'Église romaine a pris l'habitude de recentrer les examens de l'index sur le sens qu'elles sont susceptibles de recevoir de la part du public et non pas, plutôt que de s'intéresser, pardon, à ce que pense l'auteur. Alors je vous cite un extrait de la Constitution apostolique Sollicita ac Provida de Benoît XIV qui légifère les procédures en matière d'examen de livres dans son paragraphe 10. Voici ce qu'écrit ce pape. Il n'est nullement nécessaire de convoquer des auteurs à un jugement où il ne s'agit pas de censurer ou de condamner leur personne, mais bien de veiller à la sûreté des fidèles en éloignant d'eux les dangers auxquels on s'expose si facilement par des lectures pernicieuses. Si bien que le travail de la censure ne s'intéresse pas à l'intention, mais à la réception. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe entre l'auteur et son livre, mais ce qui se passe entre le livre et les lecteurs qui peuvent être influencés par le livre. Donc, la question du sens de l'auteur paraît parfaitement secondaire. La question, c'est de savoir quel sens cela fera auprès du public. Et pour reprendre encore cette conférence liminaire de Thomas Hockmann, il a montré que au moment du procès Dieudonné, quand Dieudonné dit « je me sens Charlie Coulibaly », Dieudonné avance que, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il se sent Charlie parce qu'il est humoriste, mais en même temps il se sent Coulibaly parce qu'il est persécuté comme un terroriste. Le tribunal répond, peu importe le sens que vous avez mis, ce qui nous intéresse c'est le sens que ça va faire auprès de ceux qui vont le recevoir. Et ceux qui vont recevoir cet énoncé vont y voir une plaisanterie sur le terrorisme, une banalisation du terrorisme, et donc indirectement une apologie du terrorisme. Donc peu importe le sens réel ou supposé que Dieudonné a voulu donner, ce qui va compter, c'est le sens que l'énoncé a sur le public. Supposer que le censeur ne bénéficie que du sens littéral ou auctorial pour apporter une preuve certaine ou objective, donc ne prend pas en considération deux choses. D'abord, dans la situation sensorielle, d'abord la situation sensorielle de fait, on l'a vu abondamment au cours de ce colloque, bien sûr, les censeurs de nombreuses reprises prennent en compte ce sens figuré et condamnent sur ce sens figuré, donc je ne reviens pas là-dessus, mais aussi ça ne correspond pas, me semble-t-il, à la situation sensorielle de droit. S'il y a une science constante du langage qui formule des lois, des normes et des droits du langage qui en décrit le fonctionnement, c'est bien la rhétorique. Or, en traitant des figures, la rhétorique témoigne que le langage signifie à la fois littéralement et de manière figurée. Le sens figuré n'est pas une vue de l'esprit d'un censeur obsédé par l'hétérodoxie ou l'obscénité, qui verrait le vice partout, même dans les textes les plus innocents, mais bien une réalité décrite par cette science du langage qu'est la rhétorique. Et donc, pour conclure, Strauss voit bien que l'existence de la censure s'accompagne d'un dédoublement dans le processus de signification du langage. Il existe des doubles sens, mais le double sens ou la dualité ou même la pluralité sémantique, d'abord, ne dépend pas exclusivement d'une persécution, si faible soit-elle. Il peut y avoir des mots d'esprit, des aspects plus ludiques au double sens, mais aussi est bien connu de cet art du langage qu'est la rhétorique. Donc le repérage du sens ésotérique et sa justification imprègne les censures, ce qui semble effectivement démentir le jugement de Strauss. Mais, pour quand même le défendre, il est vrai qu'il y a une forme d'inhibition du censeur qui craint de se ridiculiser. Il peut passer pour celui qui est obsédé par l'érotisme ou l'hétérodoxie, là où ce qui est raconté ne serait que sentimental ou innocent, alors que cette inhibition on ne la trouve pas chez des critiques littéraires ou des psychanalystes. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Est-ce en raison de la preuve à administrer, comme le pense Strauss? Eh bien, il ne me semble pas, parce que, par exemple, les tribunaux aujourd'hui parlent d'interprétation raisonnable quand ils sont face à des équivoques, mais plutôt, ce qui me semble plutôt expliquer ce paradoxe, c'est plutôt, le livre de Strauss est éclairant de ce point de vue-là, une sorte de présomption de stupidité qui affecte le censeur. Or, le chercheur sur la censure doit en avoir conscience pour pouvoir mettre à distance ce préjugé et analyser correctement son sujet d'étude. Je vous remercie de votre attention. C'est très bon. C'est très bon.